Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Ce matin, vous nous appelez pour réagir à l'ouverture du procès d'Issénabré. Ce sera dans quelques heures à Dakar, au Sénégal. L'ancien président tchadien va devoir répondre de dizaines de milliers d'assassinats politiques et de l'usage systématique de la torture lorsqu'il était au pouvoir dans les années 80. Si tous les chefs d'inculpation retenus contre lui sont confirmés, Issénabré risque 30 ans de prison. En tout cas, pour les survivants et pour les familles des victimes, l'ouverture de ce procès est en soi déjà une première victoire. C'est l'aboutissement d'une longue bataille judiciaire qui aura duré 15 ans. Alors, que vous inspire le combat des victimes? Quel impact pourrait avoir ce procès? C'est d'ailleurs la première fois qu'un ancien chef d'État africain est jugé sur le continent dans un pays qui n'est pas le sien pour des crimes de droits de l'homme en vertu du principe de compétence universelle. C'est incontestablement une avancée significative pour la justice africaine. Nous en parlerons ensemble grâce à vos commentaires, vos témoignages, vos réactions. Ce sera dans une trentaine de minutes. D'ici là, évidemment, vous nous appelez. Toute l'équipe vous attend au standard 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous êtes en France et vous continuez à nous envoyer vos réactions sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter les sujets que nous traitons à l'antenne de nos différents journaux. Des questions encore ce matin sur le Burundi, nous sommes à 24 heures d'une élection présidentielle controversée. Bonjour Sonia Rollet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct de Bujumbura. Vous êtes l'envoyé spécial d'RFI au Burundi. La première question nous vient du Togo. Simon est en ligne. Bonjour Simon.
Bonjour Juan, bonjour à David Douette de RFI.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Merci. L'Union africaine a demandé le report des élections au Burundi. Mais elle n'évoque pas la question du troisième mandat. Alors ma question est la suivante. Pourquoi l'Union africaine n'aborde jamais la question du troisième mandat?
Alors, bonne question Sonia Rollet. C'est vrai que l'Union africaine a appelé le pouvoir burundais à rediscuter du calendrier électoral, à essayer de trouver un consensus avec l'opposition pour fixer une nouvelle date pour l'élection. Mais à aucun moment, ces dernières semaines, l'organisation panafricaine n'a abordé, on va dire, le nœud du problème, à savoir le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza.
En fait, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Et je pense qu'il y a de la confusion entre les différentes décisions des organisations, entre l'Union africaine, la communauté est-africaine, la facilitation internationale aussi qui était ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que la commission de l'Union africaine, en tout cas, a été très claire sur le fait que, selon les principes de la charte africaine, donc qui est un des actes constitutifs de l'Union africaine, eh bien, il fallait respecter les limites du nombre de mandats prévus par les constitutions et, en tout cas, éviter l'idée même de changer la constitution à des fins personnelles. Ils l'ont dit assez clairement, donc la présidente de la commission de l'Union africaine l'a dit, le commissaire paix et sécurité l'a dit, le commissaire aux affaires politiques l'a dit aussi. Maintenant, effectivement, dans la feuille de route qui avait été décidée à l'issue du conseil paix et sécurité, les choses étaient pas dite clairement. Effectivement, il y avait l'idée d'avoir un calendrier consensuel des élections qui devait être établi. Normalement, ça devait être la facilitation internationale qui devait amener donc à ce calendrier consensuel. Mais ce qui avait été noté également, c'est qu'il fallait un dialogue sur toutes les questions. Et quand sans question tabou donc, et quand il y avait ce commentaire de la part du Conseil paix et sécurité, selon le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, il était bien clair que le troisième mandat faisait partie des questions à aborder. Finalement, cette feuille de route n'a évidemment pas été respectée.
Oui, puisque d'ailleurs, notamment le dialogue a été suspendu hier. Autre question, toujours sur le Burundi. On remercie Simon qui nous appelait de Tablikbo au Togo. Bonjour Didier.
Bonjour Juan Gomez.
Vous nous appelez de Kinshasa en République démocratique du Congo. On vous écoute avec Sonia Rollet.
Oui, je voulais savoir pourquoi n'y a-t-il pas plus de pression de la part de la communauté internationale sur Pierre Nkurunziza, suivant l'évolution de la situation au Burundi.
Alors, Sonia Rollet, c'est une question récurrente au standard, elle revient tous les jours. La communauté internationale fait pression, mais les auditeurs ont le sentiment qu'elle, finalement, elle manque de fermeté dans ses propos.
Finalement, c'est vrai que c'est assez paradoxal, puisque peut-être qu'on a rarement vu autant de pression sur un pays. Cette pression a commencé par les États-Unis, hein, qui ont clairement signifié qu'ils étaient contre un troisième mandat de Pierre Nkurunziza et qu'ils allaient revoir. Ils ont notamment parlé de sanctions ciblées contre des officiels burundais. Ils ont également parlé de revoir certains accords commerciaux. On pense à l'AGOA, qui est l'accord de préférentiel commercial américain avec les pays africains. Ils ont parlé également de suspendre leur aide électorale au processus électoral. Ça, on l'a vu de la part de beaucoup de pays, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Suisse. Donc il y a eu quand même une réponse qui était, disons, claire sur le fait que le processus électoral n'était pas considéré comme crédible ici par les pays occidentaux. La France a également suspendu sa coopération et avec l'armée et avec la police à la suite des manifestations et notamment les accusations d'usage abusif de la force. Et puis, on a vu peu à peu l'idée même de sanctions apparaître de plus en plus claire, les sanctions individuelles. On l'a vu apparaître notamment au Conseil des ministres de l'Union européenne, où il disait assez clairement qu'à la suite des États-Unis, qui eux ont déjà une liste de sanctions, et ces sanctions sont à la fois sur des gels de compte et sur des visas, notamment les visas d'ailleurs. Et le Conseil des ministres européens disait que effectivement, ils pouvaient aussi en venir aux sanctions si la violence ne baissait pas. Il y a d'autres menaces d'un autre genre hein, qui sont encore peut-être plus sérieuses. C'était la Belgique, qui est l'un des principaux bailleurs de fonds ici, qui disait que si le président Nkurunziza continue avec le troisième mandat, il serait prêt à couper leur coopération bilatérale. Donc ça, c'est effectivement une menace qui est assez claire. L'Union européenne a quand même brandi l'article 96 des accords de Cotonou. L'article 96 des accords de Cotonou, c'est un accord qui prévoit, c'est comme une espèce de rupture de contrat entre un pays africain et l'Union européenne sur la base de problèmes liés aux droits de l'homme et de démocratie. Et donc ça aussi, c'est extrêmement sérieux. Il y a d'autres menaces qui officieusement sont mises sur la table et qui sont liées aux opérations de maintien de la paix de l'Union africaine. On sait que l'armée burundaise est très active dans ces opérations, et notamment en Somalie. Et effectivement, au vu de ce qui se déroule dans le pays, plusieurs pays européens qui financent l'Union africaine et les opérations de paix de l'Union africaine réfléchissent à l'idée même de, en tout cas, demander à l'Union africaine de ne plus utiliser les troupes burundaises. Donc on voit qu'il y a toute une palette de sanctions ou de menaces qui sont mises sur la table. Après, évidemment, il y a toujours un frein de la part de la communauté internationale qui est de l'ordre de qui on pénalise dans cette histoire. Est-ce qu'on pénalise les dirigeants ou est-ce qu'on pénalise la population? Donc ce qui est clair, c'est qu'en tout cas, les programmes qui sont liés à un appui à la population, aux femmes, aux enfants et les projets, donc les projets qui n'ont pas directement de lien avec le budget de l'État, seront maintenus dans la plupart pour la plupart des chancelleries.
Ouais, en tout cas, jusqu'à présent, le président Nkurunziza reste imperméable aux différentes menaces de la communauté internationale. Sonia Arolet, une dernière question et on vous libère. On sait que votre journée est extrêmement chargée. Nous sommes, je le rappelle, à jour J-1 de cette élection présidentielle controversée au Burundi. Cyprien, bonjour.
Bonjour RFI.
Vous êtes justement dans la province de Bujumbura, sur place au Burundi, on vous écoute.
Les putschistes ont annoncé vouloir chasser le président Nkurunziza des pouvoirs. Est-ce qu'ils en ont les moyens?
Alors, Sonia Rollet, les auteurs du coup d'État raté du mois de mai font de nouveau parler d'eux dans un entretien accordé à une chaîne de télévision kényane. Ils affirment qu'ils envisagent toujours de chasser par la force Pierre Nkurunziza. En ont-ils les moyens?
Alors on a vu il y a quelques jours déjà, un peu plus d'une semaine, une attaque qui avait eu lieu dans le nord du pays, une attaque sur deux provinces, disons la province de Kayanza et de Cibitoke, à la frontière avec le Rwanda et dans cette forêt qui est frontalière avec celle du Rwanda. Donc ça a duré pendant, on va dire, le vendredi, samedi, puis il y a eu encore des tirs sporadiques qui se sont étendus sur plusieurs jours. Mmh. Et donc les putschistes avaient déjà revendiqué cette attaque-là. Alors l'armée avait été très claire sur le fait qu'ils avaient repoussé cette attaque rebelle, puisque eux parlent d'une incursion qui viendrait d'un pays étranger, et qu'ils avaient arrêté quelques 170, c'est une quarantaine de rebelles, donc ils en avaient présenté certains à la presse. Il est assez difficile en fait de savoir exactement quelles sont les intentions des putschistes. Alors on voit qu'il y a différents types d'actions qui sont menées. Il y a donc cette attaque rebelle-là qui a eu lieu. Et puis, il y a des attaques contre la police dans les quartiers.
Des attaques à la grenade.
Alors, est-ce que tout ça est quoi ? notamment des attaques à la grenade. Alors, est-ce que tout cela est coordonné? Des sources sécuritaires burundaises disent que oui, que tout ça fait partie d'un ensemble. En même temps, ils affirment, et le président Nkurunziza a été clair lors de ses derniers meetings de campagne, que la sécurité était revenue. D'ailleurs, le président Nkurunziza est allé dans ces deux communes qui avaient été attaquées par la rébellion pour faire ces deux derniers meetings de campagne, ce qui est assez symbolique. Et donc, c'est vrai que c'est assez difficile, en fait, d'évaluer les forces. Je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent, et notamment maintenant que la médiation ougandaise, qui a blocage au niveau du dialogue entre l'opposition, le parti au pouvoir et la société civile, et qu'il y a cette présidentielle demain, de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, qu'est-ce qui va se passer jusqu'à l'investiture du président Nkurunziza, et est-ce que ces hommes, donc, qui parlent essentiellement dans les médias, ont les moyens de, effectivement... lancer une offensive contre l'armée burundaise.
Offensive qui, rappelons-le, avait échoué au mois de mai. Merci beaucoup Sonia Rollet d'avoir été avec nous en direct de Bujumbura. Il est 10h21 à Paris. N'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, vos réactions sur le procès d'Issenabré. Il commence aujourd'hui, après une longue bataille judiciaire pour les familles des victimes, pour les victimes, pour les ONG qui soutiennent d'ailleurs ces victimes. Une bataille qui aura duré 15 ans. 33 9 693 693 60. Issenabré, jugé pour crime contre l'humanité, crime de guerre et de torture lorsqu'il dirigeait le Tchad dans les années 80. Vos questions à la rédaction. Paul nous appelle de Brazzaville. Bonjour Paul.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur notre antenne. Vous avez des questions sur le gaz de schiste?
Tout à fait. Je voulais savoir, effectivement, ces dernières années, on parle beaucoup de l'exploitation de gaz de schiste. Je voulais savoir dans quel pays on trouve beaucoup de gaz de schiste. En plus, je voulais aussi savoir pourquoi est-il dangereux de l'exploiter. Ensuite, on parle d'une opération qu'on appelle fracturation hydraulique. Je voulais savoir ce que c'est.
Oui, alors c'est justement cette technique appelée fracturation hydraulique qui a poussé le gouvernement néerlandais il y a quelques jours à interdire tout forage commercial pour le gaz de schiste durant les 5 prochaines années. Mathieu Ozano est avec nous, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes chargé de prospective au sein du groupe Schiste Project, qui est un groupe de réflexion sur la transition énergétique. On va tout expliquer le plus simplement possible, évidemment, à notre auditeur, Paul, qui nous appelle de Brazzaville. Pour les uns, on voit bien que le gaz de schiste, c'est un miracle. Pour les autres, c'est une menace. En deux mots, d'abord, pour planter le décor, dites-nous, Mathieu Ozano, pourquoi tant d'intérêt pour le gaz de schiste?
Le gaz de schiste est la forme de gaz non conventionnel, une des nouvelles formes de gaz qu'on est capable d'extraire aujourd'hui, qui est la plus prometteuse en termes de production. C'est une grande surprise qui est le fruit d'une série d'innovations technologiques qui permet d'aller sortir le gaz, entre guillemets, dans sa matrice première, qui est ce qu'on appelle la roche mère. La roche mère, c'est ce qui contient les hydrocarbures avant qu'ils soient expulsés et qu'ils deviennent ce qu'on appelle des gaz ou des pétroles conventionnels. Là, on va injecter de l'eau, c'est pour ça qu'on parle de fracturation hydraulique, on va injecter de l'eau et un certain nombre de produits chimiques à très haute pression directement dans la roche mère.
Pour extraire le gaz.
Pour extraire le gaz, on crée des micro-fissures tout autour du tuyau par lequel on injecte l'eau et ses produits chimiques. On crée un petit peu de très nombreuses micro-fissures de la taille de l'épaisseur d'un cheveu à travers lesquelles le gaz et éventuellement du pétrole également, sous forme de liquide, est récupéré.
Et c'est ce qu'on appelle donc la fracturation hydraulique, c'est la seule technique aujourd'hui disponible. Et du coup, cette technique fait polémique. Déjà, vous disiez, on utilise beaucoup d'eau, et pour les écologistes, c'est contraire, évidemment, à leur principe.
Oui, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que essentiellement aujourd'hui, les gaz et pétrole de schiste sont exploités aux États-Unis quasiment exclusivement, dans des zones qui sont souvent très peu habitées, voire inhabitées, dans le Dakota du Nord ou dans l'ouest de l'État du Texas et au Nouveau-Mexique. Parfois, c'est exploité, dans certains cas, c'est exploité sous des villes, mais qui sont des villes texanes où on ne s'embarrasse pas trop de contraintes environnementales.
L'exploitation du gaz de schiste représente à terme une catastrophe environnementale ou pas, selon vous ?
Pas nécessairement. En termes d'exploitation locale, on sait faire des progrès énormes ces dernières années dans la capacité à ne pas polluer l'environnement autour des zones d'exploitation. Le problème principal, c'est plutôt un problème global, c'est un problème climatique. C'est-à-dire qu'avec la fracturation hydraulique, on est capable de repousser les contraintes qui s'exerçaient jusqu'à présent sur les capacités mondiales à sortir du pétrole et du gaz. Là, en quelque sorte, on est reparti potentiellement pour de nombreuses décennies avec la fracturation hydraulique pour exploiter du gaz ou du pétrole. On repousse la frontière des limites physiques de l'exploitation mondiale de pétrole et de gaz.
Ouais, en tout cas, cette technique fait polémique, elle divise même l'Europe. Pour la France, on voit bien qu'il n'est pas question pour l'instant d'exploiter du gaz de schiste. En Grande-Bretagne, Cameron, lui, en fait une priorité. En tout cas, à l'heure actuelle, à ce stade, d'après les informations que nous disposons, il est trop tôt pour trancher, pour dire oui, on se dirige vers une catastrophe environnementale.
Alors, je parlais tout à l'heure du contexte américain. Dans des zones qui sont très peu denses, les problèmes pour les populations locales qui sont très disséminés sont faibles. Le contexte est tout à fait différent si on imagine une exploitation des gaz et pétrole de schiste
à grande échelle,
en Angleterre par exemple, à très grande échelle dans le sud de l'Angleterre. Ou dans le sud de la France, ou dans le bassin parisien. Les contraintes sur l'accès à l'eau sont très différentes. Les limites d'acceptabilité pour les populations locales sont très différentes. Et aujourd'hui, il est très peu vraisemblable qu'on ait une exploitation, ne serait-ce qu'une exploitation minimale en Europe occidentale. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui habitent au-dessus des zones qui seraient exploitables.
Merci beaucoup Mathieu Ozano d'avoir été avec nous, chargé de prospective au sein du groupe Schiste Project. Alexandre Seban du service des sports nous rejoint. Bonjour Alexandre.
Bonjour Fran, bonjour à tous.
On va parler football, c'est le mercato, donc ça part et ça vient dans tous les sens dans les différents clubs européens. Douk, bonjour.
Bonjour,
vous êtes à Bukavu, on vous écoute.
Oui, j'ai trois questions concernant le mercato.
Oui. La première, c'est ça. Alors mettez bien le combiné près de la bouche, Douk, s'il vous plaît.
Bayern a laissé partir.
Alors attendez, on vous entend pas du tout, Douk. Si vous mettez pas le combiné près de la bouche, vu le temps qui nous reste, je vais donc me faire votre porte-parole. Ça ira un peu plus vite. Je suis désolé, Douk. Une question sur Bastian
Schweinsteiger.
Merci
pas
de m'avoir
facile
aidé.
À dire.
Oui, en tout cas, il est connu de tous, capitaine évidemment de la sélection allemande, et surtout, c'était l'un des
joueurs emblématiques.
Voilà, une icône, une légende du Bayern. Il quitte Bayern pour aller à Manchester, et l'auditeur voulait comprendre comment Bayern a pu laisser partir un tel joueur.
Écoutez, c'est pas très compliqué, ça s'explique en trois raisons. Tout d'abord, Schweinsteiger est un pur produit du Bayern. À 31 ans, il y a déjà passé 17 ans. Il a tout gagné, 8 fois champion d'Allemagne, 7 coupes nationales, la Ligue des champions remportée. Il peut partir la tête haute et le cœur léger. D'ailleurs, le Bayern Munich est quelque part fier de l'avoir vendu parce que c'est un joueur emblématique, vous l'avez dit, et Karl-Heinz Rummenigge, qui est un ancien joueur et qui est directeur sportif au Bayern Munich, l'a dit, je comprends qu'il ait eu envie de partir. Et j'annonce même qu'il y aura un jubilé en son honneur à la fin de sa carrière et qu'il lui sera proposé un poste au sein du club pour sa reconversion.
Donc il part en bon terme.
Il part en très bon terme. Deuxième raison, à 31 ans, je l'ai dit, il a envie d'un dernier challenge, un vrai challenge. Manchester United le faisait rêver. L'opération est faite. Troisième et dernière raison, rapidement, Louis van Gaal, l'entraîneur de Manchester United, connaît très bien Bastian Schweinsteiger puisqu'il a déjà entraîné le Bayern Munich il y a quelques années. Il avait été champion avec Louis van Gaal d'ailleurs en 2010. Et Manchester United achète Schweinsteiger 18 millions. C'est un vrai investissement. Un investissement sur plusieurs années puisqu'on peut encore jouer quelques années à son âge. Il a 31 ans, il peut jouer jusqu'à 35. Facile en Angleterre.
Merci.
Bastian Schweinsteiger.
Merci Alexandre.